Complet, et plus précis sur les grandes lignes du mouvement ouvrier, du mouvement politique de gauche en Alsace. Je serai plus bref hein, que lui, dans la mesure où il a déjà déblayé le terrain, j'essaierai de montrer simplement ce qui est différent dans le mouvement communiste et dans la confédération de la CGT. Alors, je pense que ce qui, au moment où le socialisme se scinde dans les années 20, où les partis communistes se créent, une des premières questions qui va rester, enfin, une des questions qui se pose tout de suite et qui va rester très très durable, plus durable que à la SFIO, c'est la question de la langue. Parce que les ouvriers ont en général eu soit une éducation à l'école allemande, soit une éducation pour la génération suivante plus rudimentaire qui ne les pousse pas à parler le français, ce qui va faire que, par exemple, la presse, enfin, tous les militants qui se dégagent, que ce soit au Parti communiste ou à la CGT, sont d'abord des militants qui parlent la langue des ouvriers, c'est-à-dire l'alsacien. Et donc la connaissance de la langue de l'alsacien va être la condition du militantisme, si bien que un certain nombre d'autres nouveaux arrivants ne participeront pas très facilement à l'essor du nouveau ouvrier. Il y a peu de militants issus du domaine du livre dans le mouvement communiste. Il y a quand même Charles Hubert, qui a été ouvrier d'imprimerie et qui devient un des cadres de la catégorie. Et il a eu, oui, bon. Donc il échappe à ce que je viens de dire. Disons que tous les responsables et les cadres de très nombreuses générations seront handicapés par la mauvaise maîtrise du français et on peut voir aussi que toute la presse syndicale, la presse politique doit se faire nécessairement en allemand et que le contact avec la presse nationale est très, très faible, très peu fréquent. Si on prend Charles Bacher, qui a été responsable syndical dans le Haut-Rhin, il est né en 1897, il a été à l'école allemande, et il dit dans cette biographie qu'il a appris le français en prison. Il a profité des années de prison, si on peut dire, pour se former en français, et encore, il a toujours mal maîtrisé le français. Alors, toutes les réunions se font en alsacien, les réunions syndicales et les réunions politiques. Quand les militants écrivent, prennent position, je pense par exemple à Albert Herbe, qui était un cheminot, un responsable important, quand il écrit sur la résistance des cheminots, il l'écrit en allemand. Le problème de la langue devient encore plus crucial, on verra tout à l'heure avec quand on entendra la notice de Xavier Knecht. À la libération, Xavier Knecht est un délégué mineur, devient un conseiller de la République, c'est-à-dire sénateur, en 1946, et il se voit contraint de démissionner en 1947 parce que il n'est pas en mesure de suivre les débats au Sénat, de participer aux commissions de travail. Il lui faut un interprète et c'est une vie trop compliquée et c'est tout à fait dramatique et traumatisant pour lui que d'être obligé d'abandonner cette responsabilité alors que il s'agissait bien de la promotion d'un ouvrier à une fonction importante au niveau national. Donc le député Daul aussi, qui est le seul député du Front de gauche du Front populaire, a bien du mal à suivre les débats à l'Assemblée et à participer de façon efficace aux travaux. si on prend les générations suivantes, ne vont pas tellement changer dans, sur ce domaine-là. Si on prend Eberhardt, Alfred, il est en 1928 et il dit qu'il avait 4 ans de français et 4 ans d'allemand, mais que sa famille est germanophone. Et quand il va devenir journaliste à l'Humanité d'Alsace-Lorraine, c'est lui qui écrira en allemand, et il écrira en allemand toute sa vie, et encore aujourd'hui, il dit qu'il préfère, qu'il n'a jamais cessé d'écrire en allemand, et qu'il est plus à l'aise dans cette langue. Donc, il y a la langue de la base et la langue de l'appareil national. Ça provoque une distorsion qui est gênante des deux côtés. Par exemple, lors des conférences ou des congrès, les délégués nationaux qui viennent suivre les débats ne comprennent rien à ce qu'ils disent. Il leur faut constamment aussi un interprète, ça ralentit les débats. Et il y a parfois une sorte de suspicion sur ce qui a été dit, est-ce que j'ai été bien traduit, est-ce qu'on a bien traduit ce qu'il m'a dit. Alors dans les moments un petit peu difficiles, un petit peu conflictuels, la situation devient vraiment difficile. Je pense par exemple à ce qui se passe chez les Cheminots dans les années 50, où le débat à propos, j'en reviendrai tout à l'heure, le débat à propos de la position à adopter sur le procès de Radour, sur les accusations de Radour, va entraîner des discussions internes très nombreuses qui menacent à la fois la CGT et le Parti communiste d'éclatement, parce qu'il y a beaucoup de militants qui ont eux-mêmes connu les camps à l'internement et ou qui ont eu des enfants enrôlés de force, qui contestent, qui aimerait une autre position que celle qui est adoptée, et ça introduit un conflit qui a besoin d'être discuté. Et par exemple, pour la CGT, le délégué parisien qui vient suivre le congrès de la conférence des Cheminots est très très mal à l'aise devant l'attitude, devant ce qui se passe. Et ça reste quelque chose d'important. Cette question de la langue va faire aussi que la mixité sociale à l'intérieur du Parti communiste est un peu plus difficile à mettre en œuvre qu'à la FFIO ou que dans les autres régions françaises. Il y a relativement peu d'enseignants, par exemple, du secondaire, après la libération, quand ils sont plus nombreux, ils se regroupent dans une cellule spéciale qui les met à l'écart forcément des autres. Il y a le cas de Gauthier Lehmann qui va être intéressant parce que c'est un intellectuel, c'est un étudiant en médecine qui abandonne ses études pour devenir journaliste et qui sera directeur de l'Humanité d'Alsace-Lorraine. Il y a aussi le cas de Frumir qui est issu d'une famille bourgeoise, son père était un ingénieur chez les Wendel, qui adhère très jeune au Parti communiste, dès que Hitler est au pouvoir et persécute les communistes allemands. Il est résistant, il est professeur de médecine à la Libération et devient une sorte de figure emblématique des intellectuels engagés aux côtés des ouvriers. Et il devient même, après sa mort accidentelle dans un accident d'avion dont on n'a jamais connu véritablement l'origine, enfin la cause, une sorte de figure héroïque tout à fait particulière, enfin une figure héroïque. Il y a le cas aussi des juifs lettrés qui rejoignent le Parti communiste en général juste avant la guerre, quand ils sont à l'université ou au moment de la résistance, et qui sont, sont essentiellement des avocats. Et là aussi, on voit que c'est, eux, ils ont une maîtrise de la langue tout à fait favorable, donc, enfin, ils maîtrisent bien. La question de l'enseignement de la langue sera un enjeu événement sera un enjeu important dans toute l'histoire de toutes les générations communistes. Elle est revendiquée, ce qui fait que il peut y avoir des désaccords entre dans la gauche au sujet de cette position, et que on peut peut-être aussi voir que cette volonté de garder des racines alsaciennes et un caractère alsacien à travers la langue se développe à d'autres moments dans des espèces de spasmes de révolte contre ce que les communistes ouvriers appellent la colonisation de l'Alsace par la France. Donc le rapport à la République des communistes n'est pas le même que celui de la SFIO qui se rallie très vite aux positions jacobines comme l'a montré Léon. Les communistes alsaciens sont plus soucieux d'un point de vue, enfin, d'un soutien à l'internationalisme et à la fois au caractère assez local, enfin, aux racines alsaciennes qui sont des erreurs. Ça peut expliquer en partie le virage de Charles Hubert, qui a été un des premiers cadres communistes qui s'est finalement allié assez rapidement aux autonomistes par justement par déception de façon dont Paris ou la France traitait les Alsaciens, qui finira par certes allier au nazisme et aura été exclu encore enfin, très rapidement du Parti communiste, mais cette tendance à vouloir à chercher à conserver une entité alsacienne est perceptible assez longtemps. On la voit aussi à d'autres moments, quand certains militants alsaciens se démarquent des positions nationales au nom de leur histoire alsacienne. Je pense par exemple à Kalm, qui est né en 1905, qui est maître tailleur, qui est adhérent très jeune en 1924 à la jeunesse communiste, hein, qui entre au Parti communiste en 1927, qui est secrétaire régional à l'organisation en 1936, qui est un dirigeant illégal pendant la guerre, il est arrêté, il est mis sous surveillance, il est arrêté une seconde fois, il est interné à Schirneck, il subit plusieurs mois de torture et de bunker à Schirneck, et il est condamné à la réclusion à vie. Et pendant son internement, il perd un fils enrôlé de force et fusillé donc, aux tentatives d'évasion de l'armée allemande. Et à la libération, quand il a conduit la liste communiste municipale et qu'il est élu municipal, il choisit de participer, de se désolidariser du parti, enfin, de la position officielle nationale du Parti communiste et de se rendre au monument aux morts au moment du procès de Rennes. Au moment du procès de Bordeaux, ce qui aboutira à son exclusion. Le cas d'Albert Herbe est à peu près semblable. Il est né en 1905, il est cheminot, il milite à la CGTU, il est communiste, il est adjoint au maire communiste Émile Hague de Bischheim à partir de 1935. Il est interné par les Français à Magnac pendant la guerre. Il rentre en fait à Bischheim, il est arrêté en mai 42, lui aussi condamné à la réclusion à vie. Quand il redevient secrétaire des cheminots en 47, il n'accouvre pas non plus la ligne imposée d'alignement sur les positions du parti au niveau de la CGT, et cela risque de provoquer une scission, si bien qu'il démissionne. Il démissionne de ses fonctions syndicales, mais le Parti communiste l'exclut et la CGT l'exclura aussi, le Parti communiste d'abord en 1953 et la CGT en 54. Alors dans les deux cas, les motifs de l'exclusion sont des motifs qui sont liés à la dénonciation et la conduite pendant des camarades pendant leur internement, mais en fait le véritable motif est ailleurs. Et c'est assez dramatique parce que tout le mouvement communiste alsacien a été l'objet d'une répression particulièrement féroce de la part des autorités nazies, et que le mouvement de résistance sur le lieu de travail qui s'était développé a été fort, mais n'a pas pu déboucher sur sur une activité comparable à celle qui s'est vue dans l'est de la France, parce que les 300 militants qui avaient été fichés par la police française et par les autorités nazies sont très rapidement internés et transférés, jugés, et parfois pas jugés, transférés dans des camps. Dans un autre ordre d'idée, mais aussi défenseur de racines alsaciennes, c'est Alphonse Gauss, né en 1914, qui adhère au Parti communiste pendant la clandestinité et qui devient secrétaire fédéral en 1950 et conseiller municipal, suppléant du comité central, mais qui a toujours milité pour une certaine décentralisation. Et a toujours revendiqué et cherché même à protéger ses racines alsaciennes, regrettant presque à la fin de sa carrière de militant que l'assimilation française se fasse et que la rupture soit consommée avec les générations précédentes. Alors je voudrais pas être trop longue. Je voudrais souligner un autre point qui est original par rapport dans le mouvement ouvrier alsacien, c'est les grandes dynasties de militants, les grandes familles qui sont visibles dans le Haut-Rhin en particulier, et qui produisent des espèces de monstres sacrés de père en fils. Alors je prendrai trois exemples. Je prendrai les Ugel. Alors Ugel, la famille Ugel, la dynastie, on peut dire. Il y a dans la dynastie Lucien père et Lucien fils. Ça n'arrange pas les historiens, mais c'est assez fréquent que le fils aîné ait le prénom de son père. C'est le cas ici. Lucien père est né en 1897, il est soldat allemand en 1914, soldat français pour son service militaire de 1919 à 1921, en Serbe occupée, d'où il revient libre penseur et rouge. Il devient ouvrier dans les mines, il est un des membres fondateurs du Parti communiste. Licencié en 1930, il est réintégré en 1936 aux mines. Il est arrêté en 1942 comme communiste actif, mis au cachot à Saverne pendant un an, sans contact avec l'extérieur. Il s'évade lors d'un transfert vers une autre prison. Il reprend son métier et ses activités politiques. Il avait épousé une ouvrière du textile. Leur fils Lucien, né en 1922, interrompt ses études à Célesta quand son père retrouve du travail à Wittelsheim en 1936. Il devient lui-même mineur et adhère à la jeunesse communiste. En octobre 1941, il détruit l'Arc de Triomphe préparé pour une fête nazie à Thalmes. Il est arrêté, il est interné, on l'envoie enrôlé dans la Wehrmacht. Il s'évade pendant la débâcle allemande et rentre à la ville. Il se marie, je dirais, tout à l'heure, il parlait de son épouse. Il adhère au Parti communiste, il devient permanent syndical en 1949, secrétaire de l'Union départementale de la CGT de 1956 à 1966. Puis il part à Berlin rejoindre son épouse et comme correspondant d'humanité. Il revient en France en 1972 et entre au secteur international de la CGT. Il rentre à Mulhouse en 1976, devient secrétaire régional jusqu'à sa retraite, secrétaire régional de la CGT, jusqu'à sa retraite en 1982. Son épouse, Cécile, a elle aussi une histoire très liée à une dynastie familiale. Elle est née en 1925, ses parents étaient Égis. Ses deux parents étaient communistes depuis les années 30. Le père était mineur de potasse et la mère était une féministe qui est libre penseuse, ce qui était rare à l'époque. Elle a eu 6 enfants et tous sont devenus militants et combatifs, surtout les filles. Alors Cécile est exclue des études secondaires pendant la guerre pour refus de s'inscrire au mouvement des jeunes filles nazies, BDM. Et elle est envoyée comme récalcitrante au Blich-Dienst, dès le 1er janvier 1941, puis elle revient avec sa mère grâce à la complaisance d'un médecin à Wittelsheim et elle est employée à la mine. Et comme elle conduit les véhicules de la mine elle est en renfort dans la flaque en fin de 44. Elle s'évade et se cache grâce à la complicité d'une famille allemande, qui est démocrate. Elle rentre en mai, elle épouse Lucien Huguel en 1946. Et leur premier enfant meurt en bas âge. Elle est ouvrière du textile, elle est membre de l'Union des femmes françaises, elle est communiste, elle est égyptiste. De 1954 à 1982, elle est au Conseil national de l'UFF. En 1964, elle entre au comité central. En tant que choisie par Thorez comme femme ouvrière. Entre 1966 et 1972, elle est secrétaire générale de la Fédération démocratique internationale des femmes à Berlin, Berlin-Est. Son mari la rejoint. Elle parcourt le monde pour rencontrer et aider les mouvements féministes. Elle est ensuite permanente au comité central, puis elle revient en Alsace avec son mari. Donc on voit cette famille, dans l'histoire de cette famille, cette dynastie Huguel, l'importance des choix que font les uns et les autres, la difficulté qu'il y a à militer quand on est dans un couple, et la façon dont finalement les organisations ont réussi à adapter à s'adapter pour que chacun puisse trouver son compte sans abandonner ses responsabilités. Une autre famille, une des grandes familles encore, c'est celle d'Alberlands. Alors Alberlands naît en 1917, fils de garde barrière, d'abord apprenti coiffeur, puis cheminot. À partir de 1940 en Alsace avec il est en contact avec René Beer, qui sera la plus jeune victime décapitée par les nazis dans le Haut-Rhin, parmi les 10 condamnés à mort. Il est envoyé dans la Wehrmacht, il se rend aux Américains en 1945, devient ouvrier dans la construction, puis la pétasse, puis dans une entreprise liée à la famille de son épouse. Et c'est là qu'on retrouve, il est conseiller municipal, adjoint au maire, d'abord conseiller municipal, puis adjoint au maire, puis maire de Schaffelfelden. Et son épouse, Émilie Giuberti, est elle aussi fille de militants italiens qui sont venus s'installer, qui ont fui l'Italie, qui sont venus s'installer dans le Haut-Rhin. Elle est la sœur de Odile Schneider, qui sera une militante importante, très importante de l'Union des femmes françaises. Et qui aura elle-même des enfants qui militants. Donc il y a des dynasties qui se forment, qui se développent pendant très longtemps. On pourrait parler aussi des Hafner, Hafner Eugène qui est mineur de Potas, un des membres, d'abord un membre de la SFI, puis membre du Parti communiste après 1940, qui a comme épouse Rosalie Rose, dont vous entendrez la biographie tout à l'heure, qui elle-même avait un frère qui était communiste et un autre qui était brigadiste, et qui joue un rôle important à l'Union des femmes françaises pendant la guerre d'Algérie. Et leur fils, Marcel, né en 1943, mineur lui aussi, communiste, et élu municipal à Wittenheim. Donc on a aussi longtemps que les enfants reprennent le métier des parents, des successions de militants qui se forment et qui sont formés par ce groupe qui est la propre société communiste en Alsace. Je ne voudrais pas abuser du temps, dire deux mots sur les femmes d'une façon générale, et on pourra demander à Jeannette Lahotte ses impressions là-dessus. Les femmes dans le mouvement ouvrier sont souvent peu visibles, mais souvent actives. Donc il y a un déficit de visibilité et de notoriété peut-être chez les femmes. Les femmes accèdent peu à des responsabilités, pas rapidement, à des responsabilités politiques au niveau des instances syndicales ou partisanes. On en trouve cependant beaucoup dans les associations périphériques. Et je pense à Secours Rouge International qui organise à travers Marthe Berger-Müller ou Madeleine Grünewald l'aide aux réfugiés allemands qui organise aussi le passage des brigadistes allemands vers l'Espagne quand ils arrêtent Strasbourg est une plaque tournante. Et dans les femmes invisibles, il y a aussi toutes les petites mains, comme Marthe Kierig, qui est secrétaire de Voldy et qui sera celle qui tape les tracts pendant la résistance. Il y a aussi toutes celles qui font un travail de fourmi, qui est l'aide apportée aux familles des victimes du nazisme, des victimes des déportés et des internés, et qui apporteront des vivres, des vêtements, de l'argent et un soutien psychologique tout au long de la guerre à ces familles en détresse. On a oublié de dire aussi que beaucoup d'entre elles avaient été arrêtées en même temps que leur mari. On signale l'arrestation du mari, on ne signale jamais quand, parallèlement à ça, l'épouse est arrêtée et parfois maintenue loin de sa famille pour très longtemps, comme la femme de Kalindin ou la femme de Marshall dans la vallée de la Bouche. L'autre organisation qui sera importante pour les femmes, c'est évidemment l'Union des femmes françaises. Elle sera souvent vécue comme une façon de militer pour convaincre les femmes de sortir de leur foyer et agir. Et ça sera aussi, il faut bien dire, une planche de salut contre le machisme ambiant. Parce que si les femmes sont très militantes, elles ont quand même beaucoup de mal à se faire reconnaître par leurs propres camarades. Le dernier cas de femmes que je voudrais signaler, c'est celui des femmes de mineurs, parce qu'elles abandonnent souvent leur métier quand elles se marient et qu'elles ont des enfants, parce que le métier du père la mine est loin, d'abord est loin des autres industries, ce sont des cités très concentrées sur les mines. Et par contre, elle joue un rôle important dans le relais des luttes des mineurs. Et elle joue un rôle parce que ce sont des veuves, très, très souvent, les mineurs meurent jeunes. Et donc la situation des veuves fait que les revendications autour de l'amélioration des conditions de travail et de vie des mineurs, les les touche aussi, et elle y participe de cette façon. Donc elle a beaucoup de femmes de mineurs qui jouent un rôle important. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, parce que vous allez entendre tout à l'heure des biographies de militants qu'on a évoqués, et qui vous donneront un aperçu justement de ces vies qui sont des vies fortes, qui sont des vies difficiles, qui sont des vies souvent méconnues, et qui font la grandeur de ce mouvement national.